Bonjour à vous, question politique, on est en direct et jusqu'à 13h, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans Question politique, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. Notre invité ce dimanche est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Vos questions, vos commentaires sont les bienvenus pour intervenir. Le mot-clé, Question Paul.
France Inter, Question politique, Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut à tous.
Avant d'accueillir Stéphane Travert, rapide tour de table pour vous. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On va démarrer avec vous, Jeff.
Eh bien, Alice, qui a retenu mon attention cette semaine, on en parlait dans le flash à l'instant, c'est l'accord de gouvernement qui a été conclu en Italie entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Comparaison n'est pas raison, mais voilà donc une alliance entre un mouvement populiste et un parti d'extrême droite qui va remplacer un pouvoir incarné pendant près de 2 ans par un jeune et dynamique dirigeant de centre-gauche, Matteo Renzi. Comme Emmanuel Macron, il était à sa nomination le plus jeune leader du continent, pro-européen justement. Il a mis en œuvre des réformes économiques d'inspiration libérale et il a été le dynamiteur, le démolisseur, c'était son surnom en Italie, de la vieille classe politique qui régnait depuis des années. J'arrête là les parallèles car il y a quand même une différence de taille. Matteo Renzi, n'avait pas reçu l'onction du suffrage universel avec ses 20 700 000 voix à la présidentielle. Emmanuel Macron est sur un siège autrement plus stable que lui. Il n'empêche, à Renzi, mais aussi à Obama, ont succédé des dirigeants et une politique radicale voulue par les électeurs. Cela va peut-être faire réfléchir ceux qui espèrent, y compris autour d'Emmanuel Macron, qu'il n'y ait demain plus rien ou plus grand-chose entre lui et ses opposants les plus durs que sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est le reproche que lui font par exemple le PS ou la CFDT. Le pouvoir a choisi ses opposants, ceux des extrêmes, quitte à connaître un jour un scénario à l'italienne.
Merci Jeff. Françoise.
C'est le « retenez-moi ou je fais un malheur » prononcé par Nicolas Hulot ce mardi alors que le gouvernement s'apprêtait à fêter ses 1 an. Le ministre de l'écologie, visiblement malheureux, annonce sur BFM que l'été sera un moment de vérité, qu'il fera le point avec le président de la République et le Premier ministre, et alors on verra ce qu'on verra. Mais le suspense est duré assez peu car aujourd'hui dans Ouest France, le ministre de la Transition écologique annonce en fait qu'il restera ministre tant que l'écologie avance. Ouf, on est soulagé. En réalité, ce ne sont pas tant les états d'âme de Nicolas Hulot qui surprennent, car son dossier est objectivement très difficile. La France vient d'être épinglée à Bruxelles pour la mauvaise qualité de son air, l'accord climat n'avance pas, et sur le front de la biodiversité, c'est l'alerte générale. Non, ce qui frappe, c'est la façon dont le ministre s'y prend pour faire avancer ses dossiers. Ce chantage à la démission, qui n'est pas le premier, et qui traduit au fond une vraie faiblesse, en ce sens qu'il semble s'exonérer de ses propres responsabilités. Or, on voit bien depuis 1 an qu'il éprouve des difficultés à se mettre en avant sur les dossiers difficiles. On voit qu'il a une envie régulière de tout envoyer balader, la tentation de Venise qui était si chère à Alain Juppé. Et cette propension un peu trop forte à jouer de sa notoriété et de sa popularité, finalement, ça marche pour le moment, mais combien de temps? Regardez, dans le dernier baromètre IFOP-JDD, la cote de popularité de Hulot baisse de 22 points en 1 an. Donc, si ça se poursuit, il faudra que l'ancien animateur d'Ushuaïa Nature invente autre chose pour faire avancer sa cause.
Merci Françoise. Karine.
Moi, ce qui m'a marqué, on peut dire les choses comme ça, c'est le mauvais état de nos partis d'opposition. Alors, c'est vrai qu'on le sait déjà, mais c'était extrêmement patent, j'ai envie de dire, à l'occasion de cette émission jeudi soir sur France 2, l'émission politique. Qu'est-ce qu'on a vu? Tous les principaux dirigeants des partis politiques étaient là. On a vu un Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas tellement changé, qui continue à nous annoncer, à nous prédire, à nous promettre un grand déferlement de toute la colère de la France, sauf que ce déferlement, on continue à l'attendre. On a vu à gauche toujours un Olivier Faure qui n'a pas de message politique fort. Donc quand on n'a pas de message politique fort, on n'existe pas en fait politiquement. On a alors Wauquiez qui, sur la forme, a été assez bon, mais sur le fond, il est toujours là à essayer de se différencier de la politique d'Emmanuel Macron, donc c'est compliqué pour lui aussi. Et puis on a Marine Le Pen, qui finalement a peut-être été la seule à réussir à le défier sur le terrain européen à l'occasion des prochaines élections européennes, en disant notamment, j'espère réussir à imposer un Parlement d'eurosceptique à Emmanuel Macron à Bruxelles. Autrement dit, personne ne réussit à freiner le président au niveau national, Et au niveau européen, le Front National est obligé de compter sur ses alliés pour espérer y arriver. Donc pour l'instant, Emmanuel Macron peut vraiment dormir sur ses deux oreilles.
Merci Karine. Il est 12h10. Comment aider les paysans? Comment sauver cette France rurale qu'on dit à bout de souffle? Comment garantir qu'on puisse manger mieux et au juste prix? Comment, question très politique, réconcilier le président des villes avec les campagnes? Notre invité est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, qui s'installe dans le studio 220 de la Maison de la Radio. Prenez place, monsieur le ministre. Bonjour Stéphane Travert.
Bonjour.
Après-demain, vous irez défendre votre projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation devant le Parlement. Texte ambitieux, très controversé. Il nous concerne tous. Vous nous direz ce qu'on peut en attendre. 2683 amendements déposés. Vous êtes prêts pour le baptême du feu?
Oui, nous sommes prêts. Et 2683 amendements, c'est la preuve que ce texte suscite de l'intérêt. Et c'est bien normal.
On
parle des territoires, on parle de l'agriculture et on parle de l'alimentation qui concerne tous nos concitoyens, tous les Françaises et toutes les Français.
Et on va y venir longuement avec vous, Stéphane Travert. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine?
Ce qui m'a marqué, c'est ce rendez-vous que nous avons eu les uns et les autres, tous les membres du gouvernement, sur les territoires, les un an de l'action. Un an d'action pour aller retrouver nos concitoyennes et nos concitoyens, pour aller les écouter, aller échanger avec eux. Et c'était une première pour un gouvernement, c'est un premier exercice pour un gouvernement que de faire ces comptes rendus de mandat. Et ça m'a rappelé, moi, ce que je faisais quand j'étais parlementaire ou élu régional en Basse-Normandie, en charge de la pêche et de l'aquaculture, et retourner à intervalles réguliers, en dehors des périodes électorales, devant ses concitoyens, devant ses mandants, devant ses électeurs, pour faire un bilan de ce que l'on a fait.
Se faire engueuler aussi un peu?
Mais aussi, mais ça sert aussi à ça. Mais je peux vous dire que moi, je me suis rendu à Saint-Maur, près de Châteauroux, dans l'Indre. Ça a été une réunion très respectueuse, dans un état d'esprit très républicain, et nous avons pu échanger avec toutes celles et tous ceux qui étaient ici pour poser des questions sur la vie agricole, et il y a eu beaucoup de sujets sur l'agriculture.
Du jeudi quand même pour retrouver vos concitoyens, vous les voyez plus régulièrement que ça?
Oui, mais moi je suis beaucoup sur le terrain parce que c'est le rôle du ministre de l'Agriculture d'être sur le terrain pour échanger avec tous ses concitoyens. J'y étais encore hier dans mon département et bien évidemment c'est important de rester à l'écoute.
Et sans langue de bois, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait améliorer pour bien passer l'année qui vient?
Qu'est-ce que j'ai retenu de cette rencontre? D'abord, cette volonté d'échanger, cette volonté qu'ont nos concitoyens de comprendre pourquoi nous menons les réformes, pourquoi nous voulons transformer notre pays. Et peut-être se dire que nous devons continuer à expliquer, faire la pédagogie de l'action.
C'est trop vertical?
Non, oui. Je crois que nous avons...
Dire, hein. Vous avez hésité un instant, et puis le réflexe langue de bois a pris le pas non, la parole de vérité.
On ne pourra jamais me prendre en défaut là-dessus, mais sincèrement, je crois que faire la pédagogie de l'action, c'est nécessaire, et nous devons le faire autant que de besoin.
Est-ce qu'on vous a posé la question, comme elle a été posée à Gérard Collomb, sur les 80 km/h, puisqu'il a sorti son joker, et est-ce que cette affaire des 80 km/h, elle n'est pas symptomatique de cette coupure entre ce qu'on appelle la France d'en bas, celle de peut-être vous êtes allé dans l'Indre, et les élites qui n'écoutent rien et qui décident à Paris?
Mais écoutez, moi, je ne sais pas de combien de jokers j'ai le droit l'émission. En tous les cas, bien, je les épuise tous.
Et
d'abord, je n'ai pas été interrogé sur ce sujet, mais j'y ai été interrogé hier. Et je puis vous dire que là-dessus, le gouvernement est mobilisé. Moi, j'en ai assez du décombre macabre. Toutes les fins de semaine, quand on vient annoncer aux familles que l'un des leurs a perdu la vie dans des accidents de la route. Moi, je viens d'un département où nous avons le réseau routier le plus dense de France. Et je puis vous dire, avec des routes départementales, etc. Et je peux vous dire que le nombre d'accidents est encore trop important.
Donc vous êtes favorable à la limitation à 80?
Le Premier ministre a pris une bonne décision. Nous savons que cette décision suscite des irritations, qu'elle peut être impopulaire. Mais je crois que nous devons faire preuve de conviction et dire que sauver des vies humaines, c'est beaucoup plus important que de perdre 2 à 3 minutes sur un trajet domicile-travail
le
matin.
Et Gérard Collomb doit le comprendre aussi, donc.
Mais tout le gouvernement, la ligne du gouvernement aujourd'hui, elle est simple. C'est ce qu'a proposé le Premier ministre sera mis en œuvre à partir du 1er juillet. Cela s'inscrit dans une démarche globale autour de la sécurité routière. Et bien évidemment, nous sommes tous tournés dans cet axe.
Tout de suite, le zapping politique de Laurence Perron.
Bloody Monday, c'était jour de fête lundi pour Donald Trump en Israël. Le drapeau américain flotte sur un embryon d'ambassade à Jérusalem. En Palestine, c'est jour de sang et de cendres.
Au sommaire aujourd'hui, jour d'anniversaire, d'inauguration et de mort. 70 ans de la création de l'État d'Israël, inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem et côté palestinien.
La cadence des tirs s'intensifie, un homme tombe toutes les 20-30 secondes, l'un d'eux a une ouverture près du genou grosse comme un poing d'enfant.
En France, à l'Assemblée nationale, il est question de violence sexiste, de viol. Le projet de loi de Marlène Schiappa est débattu, la députée insoumise Clémentine Autain accuse, la montagne a accouché d'une souris.
Voilà le traumatisme qui suit si souvent le traumatisme de la violence sexuelle, ne pas être cru et entendre la justice exprimer un non-lieu. Au défaut de cette preuve, de la preuve, de cette maudite preuve, s'ajoute le soupçon. C'est le fameux « elle l'a bien cherché ». Comment était-elle habillée ? Il n'y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un troussage de domestique.
Brutale, violente, la politique encore, celle d'Emmanuel Macron, mise en objet par Jean-Luc Mélenchon.
Oula, vous êtes dangereux.
Non, c'est le président des riches. Mais le monarque républicain n'a pas un sceptre, il a un ciseau, il coupe.
Monde de brut pour Nicolas Hulot qui semble encore s'interroger. L'écologie est-elle soluble dans le macronisme ? Pas sûr quand on l'écoute chez Bourdin.
Ça dépend d'abord du président de la République et du Premier ministre. C'est oui. Eux qui décident de ma présence ou pas au gouvernement. Après, moi, j'ai pas d'agenda personnel. Oui. Moi, la seule chose, c'est que je suis là pour faire et pour organiser, harmoniser, mais je ne peux pas le faire oui. Tout seul, évidemment, cette transformation
donc,
sociétale.
Mais...
Eh bien, cet été, on aura, avec le président et le Premier ministre, je pense, un moment de vérité.
Allez, pour tester sa motivation, on l'envoie près de Draguignan, aux Arcs-sur-Argence, faire la pédagogie du gouvernement. Il est cueilli à son arrivée par des cheminots en colère, interpellé par les jeunes agriculteurs, harponné par la députée La République En Marche, Valérie Gomez-Bassac.
Je suis très fière de faire partie de la majorité, très fière de la politique que nous menons. Mais ceci étant, je suis désolée, il y a un mais. Et le mais, il est sur ma circonscription. Quand je vous entends dire que vous attendez le dossier et que moi, je sais que j'ai transmis le dossier il y a 8 mois sur la carrière de Mazog et que j'ai vu vos conseillers il y a 15 jours, comprenez quand même que je me sens un peu mal à l'aise.
Et le ministre, qui décidément paye de sa personne, finit bravement dans le guet-apens des journalistes en concédant. Et oui, monsieur Hulot n'est sans doute qu'un humain.
Non, mais c'est marrant parce que ça, c'est une espèce de grammaire parisienne qu'on reprend. Voilà. Je m'interroge, j'ai des doutes, mais comme tout le monde. Le pire, c'est les gens qui sont bardés de certitudes, qui sont contents de soi, qui sont satisfaits de ce qu'ils font.
Merci Laurence Perron. Il n'aime vraiment pas être ministre ou est-ce que l'écologie n'est décidément pas la priorité du quinquennat, Monsieur Travers, Nicolas Hulot?
Mais l'écologie, c'est une priorité. Et elle est essentielle aujourd'hui. Nous sommes dans une transition. Aujourd'hui,
Est-ce qu'il se sent si mal au gouvernement?
Mais être ministre, c'est difficile. C'est prendre des décisions à longueur de temps et trouver des compromis. Et c'est parfois compliqué. Et je sais quelle est la difficulté de l'exercice et nous devons trouver les compromis qui sont utiles pour notre pays, utiles pour les Français et faire en sorte que les décisions que nous prenons, elles soient justes.
Est-ce qu'il est un peu trop dans le chantage politique, dans la pression permanente mise sur l'exécutif ?
Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Chacun voit les choses comme il l'entend. Moi, ce que je sais, c'est que, en ce qui me concerne, moi je suis tourné dans l'action qui est la mienne, j'ai une feuille de route à remplir, c'est celle du Premier ministre sur les bases du programme du Président de la République sur laquelle il a été élu. Et sorti de là, moi je fais mon travail.
Mais si on le comprend François bien, Spassos. Si on l'entend bien, Nicolas Hulot, c'est qu'il est pétri de bonnes intentions et qu'il n'y arrive pas et qu'en gros, lui il est très écologiste et les autres ministres le sont beaucoup moins. Et vous, du coup, vous êtes un peu dans le rôle du méchant, vous l'admettez ça ou pas?
Mais il n'y a pas de rôle de gentil ou de méchant.
Ah bah si.
Suffit.
C'est exactement comme ça que
ici,
c'est posé.
Nous travaillons à trouver des trajectoires responsables et des trajectoires qui soient efficaces pour le pays et pour aussi les objectifs qui sont les nôtres. La France, elle a été leader avec la COP de Paris. La France, elle est leader demain pour prendre le combat sur la lutte pour protéger la biodiversité. Et autour de tous ces éléments, nous devons conjuguer des politiques qui puissent s'intercaler les unes avec les autres, créer les bonnes conditions pour l'aménagement du territoire, faire en sorte que, sur le plan social, nos concitoyens ne soient pas plus fragilisés. C'est un ensemble homogène que nous devons construire. Et construire un ensemble homogène, c'est difficile. Cela demande parfois des arbitrages. Et c'est une tâche qui est ardue.
Mais Monsieur Travers, est-ce que les intérêts des agriculteurs sont globalement compatibles avec la transition écologique? Est-ce qu'on peut concevoir que coexiste une agriculture de masse qui fait vivre des dizaines de milliers de familles et un respect de l'écologie à tous les niveaux? Est-ce qu'il n'y a pas obligation de choisir entre les deux objectifs?
Mais il est hors de question de choisir. Les agriculteurs, ils sont les premiers concernés par la biodiversité. Ils sont les premiers concernés par la transition écologique dans laquelle nous sommes. Ils sont les premiers concernés par l'entretien des paysages, l'aménagement du territoire. D'ailleurs, ce sont les premiers acteurs de la transition écologique. Ce sont les agriculteurs.
Ils détériorent l'environnement aussi.
Mais regardez, là-dessus, c'est une insulte que l'on fait aux agriculteurs. Ils détériorent l'environnement.
Une insulte.
Les agriculteurs, eux, aujourd'hui, ce sont des gens qui entretiennent le paysage et qui sont tournés vers cette transition que nous appelons tous de nos voeux. Mais aujourd'hui, les agriculteurs,
les sols, est-ce qu'ils n'abîment pas les sols? Parce qu'on est d'accord sur le paysage, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais ils abîment les sols, non? En mettant quand même pas mal de chimie, encore aujourd'hui, des produits phytosanitaires.
Mais nous sommes en train d'y travailler, justement, pour réduire cet impact. Et c'est ça que je veux dire à Jeff Wittenberg, c'est de dire qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on enseignait aux agriculteurs dans les formations qu'il fallait utiliser un certain nombre de produits. On s'est aperçu depuis qu'un certain nombre de ces substances étaient dangereuses pour notre environnement, dangereuses pour la terre. Et donc, il faut contribuer à les diminuer, à travailler avec les agriculteurs et pas sans eux, mais construire une trajectoire avec eux pour que cela soit diminué.
Mais qu'est-ce que vous dites à Nicolas Hulot? Vous l'avez entendu vendredi dernier lorsqu'il parlait biodiversité, lorsqu'il évoquait la grande extinction, la faune et la flore qui disparaissent à une vitesse absolument inédite dans notre pays à cause de l'urbanisation, évidemment, mais aussi essentiellement à cause des pesticides. Il a parlé des pesticides, alors il a trouvé les mots pour ne pas mettre en cause directement les agriculteurs, mais c'était exactement ce qu'on entendait en l'écoutant.
Il ne s'agit pas de mettre en cause les agriculteurs ici.
Parce qui utilise des pesticides?
Les agriculteurs, aujourd'hui, il n'y a pas que les agriculteurs. Et les agriculteurs, ils sont tous tournés vers cette transition parce qu'ils veulent aussi se protéger. Les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre dignement de leur travail, et nous y reviendrons. Ils veulent pouvoir produire une alimentation de qualité en faisant en sorte que leur santé ne soit pas mise en danger. Et donc, ils sont engagés dans cette transition. Mais nous devons construire avec eux une trajectoire. Et la lutte pour la protection de la biodiversité, elle est absolument essentielle. Et personne ne le nie dans ce gouvernement. Personne ne le nie.
Mais
il n'y a pas de mais.
Ah, si, mais aussi,
quand on parlait de Nicolas Hulot, si vraiment, il mettait en cause les choses, il parlait d'urgence.
Mais il y a une urgence à travailler.
Le glyphosate serait interdit demain, Monsieur Travers.
Voilà. Mais nous devons construire des trajectoires. Et c'est bien cela que nous, et c'est là-dessus que le gouvernement est mobilisé. Regardez sur cet exemple du glyphosate. Il y a encore 20 ans, on utilisait à peu près 8 litres par hectare de glyphosate. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'un litre par hectare. Regardez les progrès qui ont été faits par l'agriculture lors de toutes ces années. Aujourd'hui, et vous le savez, et je veux le rappeler parce qu'il faut être précis, l'Union européenne a autorisé l'autorisation de l'utilisation du glyphosate encore sur une durée de 5 ans. Le président de la République a souhaité que, dans les 3 ans, nous puissions étudier la meilleure manière de pouvoir être en situation de ne plus l'utiliser dans les trois ans.
Je complète, Nicolas Hulot soutient un amendement qui dit on peut l'interdire tout de suite. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la biodiversité qui est extrêmement dangereuse. En gros, en fait, vous dites, nous, on trouve une trajectoire, et il lui dit, mais on ne peut plus trouver la trajectoire, ouais. Il faut agir tout de
c'est
suite
là qu'il y a
radicalement.
Une incompatibilité. Travers,
on comment... peut être sur des trajectoires rapides.
Alors,
nous ne sommes pas forcément.
Mais
nous ne sommes pas
forcément
sur le temps long. Alors, moi, par exemple, je vais vous dire, je ne suis pas pour préempter le débat parlementaire. Il y a déjà eu un débat en commission. Il y a cet amendement dont vous parlez aujourd'hui. Eh bien, nous aurons le débat. en séance publique, mais vous avec avez les bien parlementaires, un avis. Parce que ce sont les parlementaires qui, aujourd'hui, font la loi. Et aujourd'hui, mon avis, il est de dire que nous devons construire des trajectoires. Nous
ça,
devons,
c'est la langue de bois.
Non, ce n'est pas la langue de bois.
C'est un élément de langage, ça fait à peu près 10 fois que vous le dites depuis que vous êtes arrivé.
Mais bien sûr.
En l'occurrence, François, je vous pose une question simple.
Construire des
l'amendement qui propose l'interdiction du glyphosate tout de suite parce qu'il y a urgence, sera-t-il voté?
Il y aura le débat dans l'Assemblée nationale.
Vous laissez l'Assemblée décider?
Eh bien, laissez l'Assemblée nationale qui décidera, bien évidemment. Mais il doit y avoir ce débat dans l'hémicycle. C'est aussi le respect que l'on doit au Parlement là-dessus. Mais là encore, je le dis, nous n'avons pas attendu. Nous avons tout de suite mobilisé les instituts de recherche, les instituts techniques, l'INRA, pour faire en sorte que nous puissions trouver des solutions alternatives. Et d'ailleurs, le rapport de l'INRA l'avait dit, il n'y a pas
qui
de solution
verra.
Clé en main.
Le ministre de l'Agriculture nous dit
prochaine.
Je n'ai pas d'avis, mais on verra la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'il en adviendra.
Mon avis, je vous le dis, monsieur.
Voilà, votre avis, Stéphane Pramer.
Mon avis, mais il est connu de tous, c'est aujourd'hui, nous avons une période de 3 ans pour trouver les éléments qui nous permettront demain de pouvoir dire nous pouvons nous passer définitivement de ce produit. Il n'y a pas de surtransposition non plus européenne à apporter. Il y a cette durée de 5 ans qui a été votée par la Commission européenne. Et donc, nous nous inscrivons.
Donc, l'amendement ne sera pas voté pour vous répondre, François. C'est ce qu'il fallait comprendre.
Oui. Mais il y a 6 mois qui se sont écoulés depuis la décision qui
Françoise,
a été prise.
Merci.
Oui, je pense. Oui.
Est-ce que des solutions alternatives commencent d'ores et déjà à se dessiner?
Bien sûr.
Lesquelles?
Il y a des solutions, des alternatives aujourd'hui. Les solutions alternatives, c'est à travers la modification de plans agronomiques, c'est la rotation des cultures, c'est essayer de faire en sorte que nous puissions travailler sur le désherbage mécanique. Donc on va faire appel à la mécanique agricole de précision là-dessus. Et donc il y a des solutions, mais ces solutions, elles n'englobent pas toutes les utilisations.
Et donc dans 3 ans, on sera prêt.
Et dans 3 ans, il faut que nous puissions être prêts. Mais moi, je ne peux pas vous dire... Vous savez, je me base, moi, sur la science et le droit. Et moi, je ne sais pas ce que la science aura pu, d'ici 3 ans, me dire quelles sont les alternatives véritables et quel sera le catalogue des alternatives véritables qui existent à ce moment-là.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, est l'invité de Questions Politiques. Votre portrait, Stéphane Travert, il est signé Karine Bécard.
Stéphane Travert, vous êtes arrivé au gouvernement il y a moins d'un an. Vous avez évidemment fêté cette semaine avec tous vos collègues ce premier anniversaire, mais soyons précis, vous n'avez pas fait partie du tout premier gouvernement. Vous êtes entré parce que 4 autres s'en sont trouvés éjectés et vous avez donc été bombardé, ministre de l'Agriculture, pas exactement votre spécialité, mais en étant un Normand du Cotentin, vous pouviez au moins jouer la carte de la ruralité. Joli parcours en tout cas pour l'ancien député frondeur Stéphane Travert que vous avez été. Oui, un ancien socialiste, initialement proche d'Henri Emmanuelli, de Benoît Hamon aussi, et qui sous la précédente mandature n'a pas supporté la nomination de Manuel Valls à Matignon. Trop rocardiste peut-être pour vous qui avez grandi dans une famille d'ouvriers et qui avez souhaité adhérer au Parti Socialiste à l'âge de 18 ans seulement. Maintenant, politiquement parlant, y a-t-il une différence si nette entre l'ex-premier ministre et le nouveau président ? Permettez-moi de douter que vous vous soyez posé la question, parce que vous avez été tout de suite, semble-t-il, bluffé par Emmanuel Macron. Il a suffi que l'ancien ministre de l'économie, c'était il y a 3 ans et demi, choisisse la Manche, votre département, pour son premier déplacement, pour que vous vous laissiez gentiment subjuguer. Ensuite, vous avez accepté d'être l'un des rapporteurs de sa loi dite pour la croissance et vous avez été d'accord pour défendre, vous le socialiste, tendance emmanueliste, tout le volet sur le travail du dimanche. Alors aujourd'hui, Stéphane Travert, à 48 ans, vous êtes ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et vous ajoutez, je vous cite, la caution de gauche d'Emmanuel Macron. Vraiment ? Parce qu'avec votre carrure de rugbyman, même si vous avez été longtemps en réalité un joueur de handball, avec cette carrure de rugbyman, on pouvait espérer que vous sauriez peser. Mais pour l'instant, manifestement, vous n'y êtes pas arrivé.
Stéphane Travert.
Je ne sais pas si je dois réagir à ce portrait, mais en tous les cas, moi, ce que j'ai vu et perçu chez Emmanuel Macron est... Je l'ai vraiment perçu lorsque nous avons travaillé ensemble sur le projet de loi. c'était cette énergie et cette volonté de faire bouger enfin les choses. Nous avons vécu un quinquennat difficile, personne ne le nie, avec des renoncements, et un quinquennat où rien ne semblait possible. Et devant cette énergie que portait Emmanuel Macron à vouloir transformer notre pays et à vouloir faire en sorte que chacun, dans ses convictions, parce que il faut regarder ce qu'est l'équipe gouvernementale d'aujourd'hui. Chacun a pris des risques. Chacun s'est mis en rupture aussi avec sa famille politique pour faire en sorte que nous puissions travailler ensemble pour l'intérêt général. C'est ce que nous faisions lorsque vous êtes député dans une circonscription. Moi, j'ai été élu dans une circonscription qui avait toujours voté très à droite. Mais j'ai parlé avec tout le monde. Et je n'avais qu'un but, c'était de faire en sorte que mon territoire puisse réussir sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan touristique, faire en sorte que l'on rende meilleure la vie des gens, la vie de nos concitoyens. Et ces valeurs, elles sont toujours là. Lorsque j'ai accepté d'être le rapporteur sur le travail du dimanche, ce n'était pas pour libéraliser le travail du dimanche, mais c'était aussi pour redonner des droits aux salariés qui travaillaient le dimanche. Et c'était là-dessus.
Mais c'était l'accordé quand même. C'était accepté, tout un cheminement, un travail.
Mais aujourd'hui, regardez, lorsque vous ouvrez des magasins le dimanche, les salariés qui travaillent le dimanche, notamment dans les zones touristiques internationales que nous avons créées à Paris, ces salariés sont mieux payés. Ces salariés peuvent le faire de la meilleure manière possible. Et je crois que c'est autour de cela. Les valeurs, elles ne nous ont pas quittés. Chacun ici, dans l'équipe gouvernementale, a son histoire politique. Et jamais le président de la République nous a demandé de renoncer à nos valeurs, de renoncer à nos engagements. Au contraire, il a voulu faire de ce gouvernement cette addition de force, d'histoire politique, eh bien une force pour faire en sorte que nous puissions réussir pour la France.
Super technicien. C'est un peu ce qu'on ressent au bout d'un an.
Mais il faut savoir ce que l'on veut à un moment. Est-ce qu'on en a besoin de ministres qui ne connaissent pas leur sujet et qui ne font que de la politique? Je crois qu'on a besoin d'un équilibre des deux, c'est-à-dire d'avoir des ministres qui sont effectivement bons connaisseurs de leur dossier sur le plan technique, mais qui, aujourd'hui, savent donner aussi les perspectives politiques pour pouvoir le faire.
Vous l'avez dit, on parlait des états d'âme tout à l'heure de Nicolas Hulot, on voit aussi les difficultés de Françoise Nyssen. Vous qui êtes un politique à l'ancienne, finalement, qui avait gravi les échelons, qui venait du Parti Socialiste, est-ce que ce n'est pas un handicap pour certains, eh bien justement, de ne pas avoir fait ses classes en politique et d'être un novice?
Mais est-ce que ça ne manque pas, parfois? C'est aussi cette addition qui fait que aujourd'hui vous avez un gouvernement qui est homogène. C'est cette addition qui fait que aujourd'hui vous avez un gouvernement dans lequel vous avez une collégialité et une entente comme on a rarement perçu auparavant.
Mais on n'a pas de poids lourd politique, Monsieur Travers. On n'a pas de poids lourd politique qui épaulerait le Premier ministre et le Président.
Mais vous savez, cela fait un an que ce gouvernement est au travail. Il y a un nouveau parti politique, c'est La République En Marche. Les Français ont voulu le renouvellement de la classe politique. Eh bien, tout cela va se construire petit à petit. Reprenez le Parti Socialiste d'Épinay, si l'on veut faire un peu d'histoire. Reprenez le Parti Socialiste d'Épinay en 71, qui pouvait dire à cette époque, un an après, qu'il y avait des poids lourds politiques qui accompagnaient François Mitterrand. Les choses se sont construites petit à petit dans l'histoire.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est le président des villes?
Emmanuel Macron est le président de tous les Français, de tous les territoires, et pour l'avoir suivi en campagne.
Mais alors pourquoi cette étiquette?
Les états généraux de l'alimentation, ils sont nés dans une cour de ferme en Mayenne. Et moi, lorsque j'ai accompagné le président de la République au salon de l'agriculture, lorsque je l'accompagne sur le terrain, je vois quelqu'un qui est parfaitement à l'aise, qui aime ce contact avec les territoires. Donc il n'est pas le président des villes, il est le président de tous les territoires parce que nous avons la conviction que nous devons servir tous les territoires. Mais cette étiquette, elle est donnée par nos adversaires, qui n'ont pas grand-chose à proposer d'ailleurs, des adversaires qui radicalisent des positions. Et nous sommes ici dans l'action et nous ne sommes pas dans le commentaire de ce que peuvent porter nos adversaires politiques.
Françoise.
Est-ce que Emmanuel Macron est le président des riches, comme le disent vos anciens amis socialistes, au premier rang desquels François Hollande?
Stéphane Travers.
Je ne sais pas ce que c'est que le président des riches. Moi, je vois de la cohérence, de la cohésion, sur ce que nous avons à faire aujourd'hui pour transformer notre pays. Moi, j'ai vu un pays bloqué, un pays enfermé. J'ai vu un pays qui n'avançait plus, un pays avec un chômage de masse dont on ne savait que faire. Aujourd'hui, moi, je vois un pays qui est en train de s'ouvrir, qui s'ouvre de nouveau vers le monde, qui s'ouvre sur l'Europe. Un pays qui a pris une place prépondérante sur la scène européenne, et c'était un de vos sujets tout à l'heure. Un pays qui est en mouvement, un pays où l'économie est en train de redémarrer.
Le chômage baisse peu quand même, hein, les résultats économiques sont
bien évidemment, et nous souhaiterions que ça puisse aller plus vite, mais nous avons enclenché des dynamiques pour faire en sorte que nous puissions répondre à cette demande sociale
importante. Pardon, Monsieur Travers, mais il y a d'autres sujets qui suscitent la colère des électeurs, puisque vous êtes régulièrement dans les campagnes. Il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est l'affaire des retraites et la hausse de la CSG qui les a fait baisser. C'est le sujet qui revient à chaque fois qu'on interviewe des gens, notamment dans les petites communes de France. Est-ce qu'ils ne vous le disent pas ?
Vous avez raison, Jean Wittemberg, ça a été un des sujets auxquels j'ai répondu l'autre soir dans l'Indre. Mais là aussi, nous n'avons pris personne en traite. Ce sujet était clairement exposé dans la feuille de route, dans le programme d'Emmanuel Macron, parce que nous avons considéré que le travail devait payer mieux, donc en baissant les cotisations sociales et faire en sorte que, eh bien oui, il y ait une partie, et notamment les retraités, qui puissent être là pour aider les autres générations.
Eh bien, il y en a beaucoup.
Mais je sais que cela suscite. Mais regardez ce que nous faisons aussi à côté. C'est l'exonération de la taxe d'habitation, c'est la revalorisation du minimum vieillesse, c'est la revalorisation de l'allocation adulte handicapé, c'est aussi protéger les plus fragiles de la société. Et aujourd'hui, je crois que c'est une cohérence d'ensemble que nous devons chercher.
Question précise sur la taxe d'habitation. Est-ce qu'il faut la supprimer aussi pour les résidences secondaires ? Il y a un débat au gouvernement. Vous êtes de qu'est-ce que vous pensez ?
Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse la maintenir sur les résidences secondaires.
Pour un souci de justice sociale ?
Exactement. Vous savez, quand j'étais parlementaire, je me souviens qu'il y a eu des débats sur, vous savez, la fameuse redevance. Moi, je suis très attaché au service public. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'audiovisuel et sur le service public. Et je me souviens que j'avais fait des propositions, d'ailleurs, pour élargir l'assiette de la redevance audiovisuelle sur les résidences secondaires, parce que j'estimais que c'était possible de le faire à ce moment-là. Bon, sur la taxe d'habitation, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais voilà, les discussions sont en cours.
Karine Bécart, et puis on en viendra à la grande loi que vous devrez défendre à partir de mardi. Allons-y donc, puisque l'épreuve du feu, ce sera donc mardi prochain à l'Assemblée, quand vous irez défendre ce projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation. Je parlais tout à l'heure de ce très grand nombre d'amendements. Vous allez nous parler de l'esprit de cette loi, si vous deviez la résumer, cette loi, en une phrase, pour que tout le monde comprenne, que les choses soient claires, et ensuite on rentrera dans quelques-unes des grandes orientations que vous irez défendre.
C'est redonner du revenu aux agriculteurs et faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir une alimentation plus sûre, plus saine et accessible à tous.
Ça fait une phrase. Merci. Karine.
Alors, comment on fait pour augmenter les revenus des agriculteurs ? On se dit que c'est en ayant une agriculture de qualité et peut-être moins de quantité qu'on parviendra effectivement à améliorer leurs revenus.
Stéphane Travers.
C'est-à-dire une agriculture de qualité, vous avez raison. Mais aussi, ça passe par cette espèce de révolution que nous appelons de nos voeux. C'est l'inversion de la construction du prix, c'est-à-dire partir du prix de revient chez les agriculteurs. Et donc, c'est ce que nous souhaitons faire, partir du coût d'exploitation, du coût de revient des agriculteurs, et nous leur demandons de se regrouper en organisation de producteurs pour être plus forts, pour ensemble pouvoir mieux négocier, et ensuite mieux répartir la valeur et mieux la construire, parce que nous avons perdu beaucoup de temps.
Que nos auditeurs comprennent, le prix ne doit plus être fixé par les distributeurs, par les grandes surfaces, pour le dire vite, mais doit être fixé, ou en tout cas doit prendre racine dans le coût de revient, dans le coût de production chez l'agriculteur.
Il prendra racine dans le coût de production des agriculteurs grâce à des indicateurs de prix que les filières auront pris la responsabilité de construire
mais
ensemble.
Mais d'où la guerre qui est déclarée avec les grandes surfaces. Vous avez accusé Michel-Édouard Leclerc de mensonge, lui dit défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Vous dites mieux vouloir rémunérer les agriculteurs. On a là deux logiques qui sont irréconciliables, Stéphane Travers.
Non, parce que moi je veux réconcilier à la fois le revenu des agriculteurs, mais faire en sorte que chacun puisse gagner sa vie aussi. Bien évidemment, c'est faire en sorte que la répartition de la valeur, elle se fasse correctement entre les agriculteurs, les transformateurs, les industries agroalimentaires, les entreprises, et puis les distributeurs qui doivent aussi gagner leur vie, bien évidemment, et faire en sorte que, parce qu'aujourd'hui nous assistons à quoi ? Ce sont les distributeurs qui captent la plus grande partie de la valeur, qui captent les marges. Et aujourd'hui,
la
ces marges...
La distribution est le responsable du malheur paysan ?
Je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Je dis aujourd'hui que nous devons mieux répartir la valeur, mieux répartir cette création de valeur, faire en sorte que demain les agriculteurs puissent, à partir de leurs coûts de production, vendre à des prix sur lesquels ils ne perdront plus d'argent, ce qui leur permettra de pouvoir investir, qui leur permettra de pouvoir innover et de faire cette montée en gamme que nous appelons de nos voeux, de cette manière à pouvoir produire une alimentation de meilleure qualité.
Est-ce que ça veut dire que le consommateur doit accepter de payer un peu plus pour avoir la qualité et pour faire vivre les agriculteurs ?
Alors, le consommateur, il est prêt dès lors où il sait que le produit qu'il va acheter va mieux rémunérer les agriculteurs. Quand il sait que le produit qu'il va consommer va lui permettre de vivre mieux, dès lors où il sait que le produit qu'il va acheter va rémunérer, je veux dire, l'économie de son territoire, où il va servir son économie, le consommateur, il est prêt à payer quelques centimes de plus. Mais moi, ce que j'entends, c'est que les prix vont gonfler, que l'inflation va être énorme, et ça, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je crois que à travers le lissage, à travers le rééquilibrage des prix et des marges dans les différents secteurs, nous avons la capacité à maintenir le niveau de prix tel qu'il doit être, parce que les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher leur alimentation, mais je dirais
mais
que...
Mais pour ça, il faudra tendre le bras à la grande distribution.
Mais il va falloir négocier avec eux, il va falloir aussi, et nous avons dans le projet de loi, un certain nombre d'outils, de dispositifs qui doivent leur permettre demain de faire cette répartition de la valeur. Et donc, des sanctions financières aussi qui seront adoptées, parce que nous souhaitons que demain, lorsque les producteurs vont proposer un contrat, eh bien que ce contrat se fasse sur la base des prix des producteurs et pas uniquement.
Alors, il y a un domaine que vous voulez développer, c'est l'agriculture bio. Le bio, ça coûte cher à produire et ce n'est pas toujours rentable. Comment allez-vous faire très concrètement pour convertir une majorité d'agriculteurs à cette pratique ?
On l'a vu depuis... quelques années, il y a un engouement de nos consommateurs pour les produits issus de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous importons encore plus d'1 milliard d'euros de produits bio sur le territoire français. Et donc, nous avons besoin de...
Et les agriculteurs bio ne s'en sortent pas, il faut aussi le préciser.
Et nous avons besoin de plus d'agriculture biologique. Donc, nous avons besoin d'avoir plus d'agriculteurs qui se convertissent à l'agriculture biologique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis en place un plan ambition bio, avec une grande concertation qui se terminera fin juin. Plan ambition bio d'1 milliard d'euros. 600 millions d'euros venant de l'Europe, 200 millions d'euros provenant de crédits nationaux, avec aussi l'objectif d'aller servir la restauration collective. Et nous devons emmener l'agriculture biologique vers cette restauration collective avec les produits sous label ou les signes de qualité.
Il y a aussi la question des mauvais traitements envers les animaux. Vous avez été régulièrement interpellé par des associations qui sont concernées non seulement par les conditions d'élevage, mais aussi par les conditions d'abattage. Soutiendrez-vous un amendement pour instaurer le contrôle vidéo dans les abattoirs, Stéphane Travers ?
Contrôle vidéo dans les abattoirs il est déjà existant dès lors où le CHSCT ou les organisations syndicales sont d'accord. Donc aujourd'hui, une entreprise a la capacité de pouvoir...
Ce n'est pas obligatoire,
mais une entreprise a la capacité de pouvoir le mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est pouvoir mieux accompagner, mieux contrôler et mieux sanctionner lorsqu'il y a des atteintes.
Donc pas de vidéosurveillance obligatoire.
Aujourd'hui, la vidéosurveillance obligatoire n'est pas utile parce qu'on n'arrive pas à déterminer si oui ou non, si réellement l'animal est en état de souffrance. Ce que je préfère, c'est avoir des vétérinaires dans les dispositifs, des gens qui sont là pour contrôler, accompagner les opérateurs, parce que c'est un métier difficile, et de pouvoir sanctionner le cas échéant lorsque, sur cette base de contrôle, il y a des sanctions à prendre. Et je voudrais dire que ce que nous avons fait, c'est que nous allons doubler les sanctions pénales en cas de maltraitance envers les animaux. Nous allons aussi permettre aux associations de pouvoir se porter partie civile lorsque, sur des contrôles officiels, des cas de maltraitance animale auront été actés.
Françoise ?
Il y a une interrogation aussi sur l'élevage des poules en cage. Pourquoi ne pas avoir profité du projet de loi pour interdire cet élevage ?
Alors vous savez, nous avons demandé aux filières des plans. Nous avons une trentaine de plans de filières et la filière avicole s'est lancée dans une démarche de progrès qui va permettre d'ici à quelques temps de ne plus avoir d'élevage de poules en cage. Aujourd'hui, nous avions pris un engagement. L'engagement, c'était de ne plus avoir de coquilles issues de l'élevage de poules en cage. Et vous savez qu'en 2012, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place et qui demandait aux élevages d'agrandir la taille des cages. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, et c'est une logique qu'a pris en compte la filière, c'est de faire en sorte que, au fur et à mesure des investissements nouveaux qui seront mis en place par la filière, par les professionnels, nous puissions supprimer les cages. Et donc, nous travaillons avec la filière. Il y a une démarche de progrès. La filière sera contrôlée. Nous contrôlerons les plans de filière et l'exécution.
On sent chez vous quand même une envie quand même toujours de négocier, alors que parfois certains diseraient il faudrait des évolutions un peu plus radicales.
Moi, je ne veux mettre personne au pied du mur. Moi, je suis pour le compromis juste, la négociation, pour permettre de trouver.
C'est l'ancien frondeur qui parle. Vous étiez capable de rupture, vous étiez capable d'engagement ferme sur le précédent quinquennat. Et là, on vous sent.
Non, je suis toujours capable de rupture et de négociation ferme. Les négociations, elles doivent être fermes. Mais moi, je ne veux mettre personne au pied du mur. Aujourd'hui, il y a des engagements. Pourquoi est-ce que nous avons demandé aux filières de s'engager? Nous avons demandé à toutes les filières. Filière porcine, filière bovine, filière avicole, toutes les filières nous ont présenté des plans avec des démarches de progrès.
Non, mais vous avez des convictions. Le gazage des porcs, par exemple, pourquoi ne pas l'interdire?
C'est un sujet sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec la profession, et je puis vous dire que là aussi il y aura des aménagements qui seront mis en place, parce que là aussi nous avons besoin de documenter toutes les informations dont nous avons besoin.
Enfin, vous savez, en l'occurrence, ce qui se passe dans les abattoirs. En général, les rapports entre le ministre de l'Agriculture et la FNSEA, le syndicat le plus important, sont toujours assez volcaniques. Vous, on n'entend plus jamais la présidente de la FNSEA, à savoir Christiane Lambert. Comment faites-vous? C'est quoi votre
Stéphane
recette
Travers.
Miracle?
Moi, je l'entends régulièrement. Mais vous savez, moi, j'ai une relation avec l'ensemble des organisations syndicales qui est faite de rapports de franchise et de clarté. Et moi, je discute avec toutes les organisations syndicales. Mais il y a une organisation syndicale qui est majoritaire dans le pays, et je discute avec elle. Ce sont des partenaires.
Donc, vous n'êtes pas le ministre de la FNSEA?
Mais bien évidemment que non. Il n'y a pas de ministre, mais on ne va pas reprocher ça à un autre de mes collègues sur d'autres organisations syndicales. Le ministre de l'Agriculture, il est là pour appliquer une politique. Et cette politique, il doit l'incarner et la travailler avec les représentants des agriculteurs. Et les représentants des agriculteurs, eh bien, elle se traduit dans cette pluralité syndicale qui existe en France. Et moi, je travaille avec la pluralité syndicale.
Une histoire symbolique des problèmes de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est le patrimoine français qui est touché au cœur. Le roi des fromages. Le camembert est menacé. Est-ce que vous allez vraiment permettre qu'on fabrique du camembert de Normandie d'appellation d'origine contrôlée avec du lait pasteurisé? C'est un sacrilège là, et ça se passe dans votre région, Stéphane Travers.
Oui, moi je viens d'un territoire où on a un camembert au lait cru moulé à la louche particulièrement exceptionnel. Mais c'est une,
c'est dit.
C'est une, non, le camembert de Normandie, c'est une appellation emblématique française. Il existe également une production importante de camembert fabriquée en Normandie qui, elle, n'est pas en AOP.
Oui. Et qui s'appelle une étiquette trompeuse.
Voilà. Et qui permet de donner du dynamisme à la filière laitière régionale.
Et de tromper le consommateur.
Et donc, on a trouvé une situation de pouvoir arrêter cette opposition entre camembert fabriqué en Normandie et camembert de Normandie.
D'appellation d'origine contrôlée.
Aujourd'hui, ce que nous voulons faire...
Le lobby industriel laitier a gagné.
Non, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est mettre en œuvre une différenciation des produits, c'est-à-dire que la montée en gamme que nous appelons de nos vœux, moi, je suis très attaché au camembert au lait cru et moulé à la louche. Et je veux que...
Heureux de vous l'entendre dire, mais alors défendez-le, monsieur le ministre.
Je le défends en le mangeant aussi. Et tous les jours, moi, je veux que l'on puisse avoir sur les étiquettes une marque distinctive qui permette, pour les consommateurs, de différencier un camembert au lait cru moulé à la louche, un camembert de Normandie au lait cru moulé à la louche, ou un camembert avec du lait thermisé.
Françoise.
Pour qu'on comprenne bien votre projet, si vous le réussissez, cette espèce de transition agricole, à quoi ressemblera la France agricole dans quelques années si la transition que vous mettez en œuvre réussit?
Stéphane Travers.
Eh bien, demain, nous aurons une agriculture qui pourra innover et investir, parce que les agriculteurs auront retrouvé du revenu qui leur permettra d'avoir un cadre financier dans lequel ils pourront évoluer. Demain, cette agriculture française, elle permettra de produire une alimentation de qualité, durable, pour l'ensemble de nos concitoyens.
La part du bio, et c'est une ça image... sera combien à peu
Mais,
près, à votre avis?
Eh bien, nous l'avons dit, dans, vous savez qu'actuellement, nous avons une part réservée à l'agriculture biologique en surface agricole utile, qui est de 6%. Nous souhaitons la porter à 15%. C'était un objectif ambitieux. Donc nous avons besoin d'accompagner le monde agricole là-dedans. Nous avons besoin de structurer l'offre agricole autour des produits de l'agriculture biologique.
Mais est-ce que la France a encore la capacité, excuse-moi Jeff, est-ce que la France a encore la capacité à affronter des grands pays agricoles comme les États-Unis, comme le Brésil, comme la Russie, comme l'Ukraine? Est-ce qu'on doit jouer encore dans cette cour-là ou est-ce qu'il faut la réorganiser, notre agriculture?
La France doit lutter, bien évidemment, mais nous ne sommes pas tout seuls. C'est à l'échelle européenne que les choses doivent se faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec la proposition qui a été faite sur la PAC. Le budget la proposition de la Commission sur le cadre financier pluriannuel qui concerne le budget de la PAC est inacceptable en
moins
l'état.
Moins 5%.
Et voilà. Nous sommes moins 5% en euros constants. Et on peut aller jusqu'à 17,5% en euros courants. C'est la viabilité même des exploitations françaises qui est touchée.
Alors comment vous allez vous battre justement
Alors,
là-dessus?
Dès le départ, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec cette proposition.
Vous avez combien de temps pour vous battre?
Mais là, nous sommes au début de la négociation. Nous avons quelques mois devant nous, parce que c'est une proposition législative. Mais moi, dès le lendemain, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé un certain nombre de mes collègues. Nous nous rendrons le 30 mai prochain à Madrid pour, avec un certain nombre de pays... Finlande, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, la Grèce. Nous sommes en attente de contact avec l'Allemagne pour décider d'un document commun qui permettra de dire nous ne sommes pas d'accord avec la position qui a été portée. Nous souhaitons une PAC plus lisible, une PAC plus simple qui préserve les revenus des agriculteurs. Mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas transformer non plus la PAC. Il faut changer la PAC aussi de l'intérieur, faire en sorte que la réserve de précaution, la réserve d'intervention soit plus facilement utilisable et mobilisable dans les années à venir lorsqu'il y a des aléas climatiques ou sanitaires. Et nous devons défendre une PAC qui soit juste.
Stéphane Travers, justement, puisqu'on évoque l'Europe et la PAC, pourquoi on parlait du syndicalisme agricole tout à l'heure? Parlons de politique. Pourquoi tant d'agriculteurs se tournent vers des votes anti-européens comme le Front National alors que cette PAC, justement, permet à beaucoup d'exploitations de survivre?
Parce qu'ils ont besoin de réexpliquer ce que fait l'Europe et quelle est l'utilité de l'Europe pour nos agriculteurs. La PAC, c'est la première politique européenne. C'est la politique qui nous... avec les meilleurs taux de retour que nous puissions avoir aujourd'hui en France. Et la PAC, c'est une politique fondatrice de l'Union européenne. Mais donc, trop souvent, les agriculteurs se sont trouvés confrontés à la PAC dans des difficultés incommensurables pour eux. Ils ne la comprenaient pas, elle n'avait pas de lisibilité. Aujourd'hui, nous devons simplifier tout ça, simplifier les schémas de fonctionnement de la PAC.
Quand Marine Le Pen leur dit « le problème que vous avez, c'est l'Europe », eh bien, ils l'entendent et ils votent pour elle. C'est quand même ce qui se passe concrètement lors des dernières élections.
Si j'entends
élections.
Marine Le Pen et qu'on supprime l'Europe comme elle souhaite le faire et la réformer dans le sens qu'elle veut et faire en sorte que les agriculteurs ne puissent plus bénéficier des aides PAC, je ne sais pas comment nous allons faire.
Ça veut dire quand même qu'on a une agriculture sous oxygène et qu'elle est peut-être véritablement à réorganiser, parce que je repose ma question, parce que je n'ai pas le sentiment que vous avez vraiment répondu à celle que je vous posais précédemment.
Mais si, justement, mais j'avais commencé à y répondre et puis on est parti sur un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin d'une agriculture qui ne soit plus dépendante des subventions. Les agriculteurs, qu'ils veulent?
Donc, il faut que ça soit encore une agriculture productiviste, il faut que ça soit une agriculture de circuit court, il faut que ça
soit... Nous avons besoin d'agriculteurs qui puissent gagner leur vie, quel que soit le modèle de production qu'ils ont choisi, que ce soit l'agriculture biologique, que ce soit l'agriculture pour les AOP ou les AOC, ou une agriculture dite conventionnelle, plus intensive, en respectant aujourd'hui les règles environnementales. Nous avons besoin d'agriculteurs qui puissent gagner leur vie pour pouvoir innover et investir. Dès lors où ils auront cette capacité d'investissement, les aides viendront aussi en moins. Les agriculteurs, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne veulent plus dépendre des aides. Ils veulent pouvoir vivre de leur travail.
D'où la question, à quoi sert aujourd'hui la PAC? À quoi doit-elle servir, très précisément?
Puisqu'on
on a cru comprendre que c'était beaucoup de la subvention. Donc, La PAC modernisée, à quoi ça sert ?
C'est de la subvention directe, la PAC, effectivement, vous avez raison, mais c'est aussi, à travers son deuxième pilier, des corrélations avec l'ensemble des territoires, et nous travaillons avec les régions sur ces sujets. Le président de la République avait beaucoup parlé pendant la campagne du paiement des services environnementaux. Là aussi, nous avons besoin de travailler avec nos partenaires pour faire acclimater cette proposition. Parce que la France aujourd'hui fait cette proposition depuis un an et nous avons besoin d'aller faire corps avec nos partenaires européens pour qu'elle puisse entrer dans les mœurs et que nous puissions la mettre en œuvre.
Question sur son feuilleton qui n'en finit pas, Notre-Dame-des-Landes. La deuxième phase d'expulsion s'est achevée vendredi, mais les opérations sur la ZAD ne sont toujours pas terminées.
Donc moi, je me suis rendu la semaine dernière à Nantes, à la préfecture, pour animer le comité de pilotage qui a mis en avant 15 projets agricoles pour lesquels nous pouvions signer des conventions d'occupation précaires. Et il y en avait deux sur lesquels nous devions retravailler. La logique agricole va reprendre ses droits petit à petit.
Alors, les projets éligibles, ça veut dire quoi ? Vous avez été indulgent pour sortir au plus vite de cette affaire ou que les zadistes ont vraiment travaillé sérieusement sur des projets concrets ?
Il y a eu un travail. Nous avions demandé un certain nombre de choses, que les agriculteurs en question puissent être inscrits à la MSA, qu'ils puissent justifier de diplômes ou de savoir-faire dans le domaine agricole, qu'ils puissent avoir un projet qui réponde aux règles environnementales, sanitaires, etc. Et ces projets, 15 projets ont été jugés recevables et ils vont se mettre en œuvre. Mais nous avons besoin aussi de rétablir l'ordre et l'état de droit sur cette zone pour que les agriculteurs qui ont déposé des projets puissent les faire valoir dans de bonnes conditions.
Les squats expulsés vendredi ont été réinvestis hier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Deux d'entre eux, en tout cas.
Nous devons toujours revenir à cet état de droit et que, je le rappelle fermement, les gens qui n'ont pas déposé de projet agricole n'ont rien à faire sur la ZAD et donc doivent la quitter ou doivent en être expulsés par la force.
Mais est-ce que Notre-Dame-des-Landes a une vocation agricole ?
Mais il peut y avoir une vocation agricole. Ça peut être une terre, un très beau laboratoire sur des expérimentations pour accueillir des start-up, faire de l'agriculture biologique, faire de l'agriculture comme l'ont proposé un certain nombre des 15 projets qui nous ont été présentés, qui sont aussi des projets intéressants. Et puis, il y a des agriculteurs historiques qui vont pouvoir reprendre leurs terres et qui vont pouvoir les cultiver et produire une agriculture durable.
Karine.
Pour finir, je voudrais poser une question aux socialistes. Vous disiez au tout début que...
Vous l'êtes toujours d'ailleurs, par parenthèse.
Moi, je suis un homme de gauche. Et mais ça, on ne me l'enlèvera pas. Mais je ne suis plus adhérent au parti.
Dans un gouvernement de gauche,
je ne suis plus adhérent en même temps.
Mais la question, elle ne se pose pas comme ça aujourd'hui.
En tout cas, je m'adresse à l'homme de gauche et à l'ancien socialiste. En tout cas, on peut au moins présenter les choses comme
ancien,
ça.
Oui.
Vous avez dit tout à l'heure que voilà, le précédent mandat a été un quinquennat compliqué. On voit un grand succès littéraire pour François Hollande, qui est en train de faire dédicacer son livre partout.
Un succès.
Un vrai succès. J'ai dit quoi ?
Grand. C'est pas un grand succès.
Enfin, il y a 150 000 exemplaires quand même qui ont été
mais 400 000 exemplaires du livre de Jacques Chirac.
D'accord, donc peut mieux faire. Ok, mais est-ce qu'on lui a volé malgré tout son bilan à François Hollande ?
Stéphane Travers.
Non, c'est son bilan, c'est le sien. Moi, je n'ai pas lu.
C'est le vôtre aussi.
Je n'ai pas lu l'ouvrage. Oui, c'est le. Mais bien évidemment. Mais moi, je ne fuis pas mes responsabilités. J'ai été élu de cette majorité avec les désaccords que chacun connaît. Je les assume parfaitement. Mais nous avons souhaité tourner la page pour faire autre chose et surtout autrement.
Donc pas d'injustice envers François Hollande, Françoise.
Est-ce qu'il manque un volet social à la politique actuelle
secondes.
Est-ce qu'il faut un modèle social à inventer ? Et est-ce que vous allez participer à la définition de ce modèle ?
Mais aujourd'hui, il y a une politique cohérente et homogène qui se met en place. Libérer, protéger, unir, c'est autour de ce triptyque là que nous travaillons et que nous transformons notre pays dans la durée avec la plus grande détermination et mobilisation. Et chacun doit pouvoir s'y retrouver et chacun s'y retrouve en tous
vous
les cas.
Vous préférez la sauce blanche ou la harissa sur le kebab ?
Ah, sauce blanche.
J'ai découvert que Saint-Lô, dans votre département, la Manche, était la capitale française du kebab en lisant Libération hier. La Kebab Academy, France Kebab, est donc chez vous. Merci Stéphane Travers d'être venu nous rendre visite. On vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous les trois. Merci à Alexandre Gélardi qui a préparé cette émission. Je vous retrouve juste après le journal pour le grand face-à-face. À tout de suite.